Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Et je n'oublie pas notre association avec les expats, vous pouvez les retrouver sur internet et nous écouter d'Australie, du Pacifique, de Tahiti, du Japon, au travers le monde. Aujourd'hui, je reçois donc Jean-Jacques Rabache, l'ancien directeur de France Nature Environnement Limousin, qui va venir se présenter, mais également parler de toutes les activités dont il est passionné, on peut dire le mot. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Donc, tu vas te présenter à nos auditeurs.
Alors, Jean-Jacques Rabache, j'ai été en charge de la direction de FNE Limousin, qui s'appelait avant Limousin Nature,
tout à fait.
Encore bien avant la FLETNA, la Fédération Limousin Nature. Voilà. Et c'est ma carrière, c'est faite en gérant et en intervenant au titre des associations de protection de la nature.
D'accord. Donc, tu as vécu une belle aventure tout au long de ta carrière professionnelle, qui est auprès de la nature, des animaux, de la faune et de la flore.
Oui, alors. Effectivement,
pas que ça. Hein.
Voilà, c'est une bonne et une belle aventure de vivre déjà dans le monde associatif. En plus, avec une thématique d'environnement. Ce qui est surtout intéressant, c'est que je l'ai fait à une époque, pas la même que celle d'aujourd'hui. J'étais le premier salarié d'une association de protection de la nature. Il y avait pas deux personnes qui faisaient l'idée. Donc, c'est aussi un moment où on ne parlait que très peu d'environnement, puisqu'en 1985-86, quand l'aventure a démarré, le ministère de l'Environnement n'avait que 10 ans. Il n'y avait pas de service environnement dans les communes, dans les départements. La régionalisation commençait juste après, la décentralisation. Il n'y avait pas non plus à la région. En fait, j'ai vu naître et apparaître la conscience de l'environnement ou la problématique de l'environnement dans notre société, en essayant un petit peu de la faire émerger, en essayant de la faire sortir.
Je vais te demander une petite chose, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Pour faire le boulot que tu as fait, tu avais quoi comme formation et qu'est-ce qu'il faut comme formation maintenant? Parce que ça évolue, bien entendu, comme tu te dis.
Alors, comme c'est un métier qui n'existait pas, il n'y avait pas de formation particulière et spécifique, le boulot que je fais, il a été fait par des personnes qui ont mon âge, de ma génération, qui ont différents parcours. Alors moi, j'avais fait des études de biologie, notamment ma technique de technicien d'analyse biologique et biochimique. Et ensuite, j'avais fait des études universitaires de biosciences. Et en parallèle à ça, je faisais des activités d'animation. Du ski et du tennis, dans un centre de vacances dans lequel les gens allaient.
J'ai dit le mot.
Et quand l'association donc, de protection de l'environnement local, la FLETNA à l'époque, a décidé de créer un outil d'éducation à l'environnement, puisque pour faire émerger la problématique de l'environnement dans la conscience, dans la société, il faut informer les gens, il ne faut pas simplement leur dire ce qui est bien et pas bien, il faut faire sortir cette conscience-là. Donc j'ai été recruté plutôt sur un profil d'animateur. C'est vrai que tout le reste après, cette fonction, cette mission, elle m'a permis d'exercer différents métiers, entre des animateurs nature, entre formateurs pour former des animateurs, entre conseiller en info-énergie, en passant par la création d'un centre de soins, la création de pas mal d'associations, en pignon sur rue, voilà.
Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que FNE regroupe pas mal d'associations.
Association Limousin.
Tu peux en citer,
Par exemple, la LPO, Limousin, il y a le groupe analogique et herpétologique du Limousin, il y a la Société Limousine des Odonates, ça c'est l'association environnementaliste, naturaliste, mais il y a aussi des associations plus thématiques, comme par exemple l'ALDEMA, il y a le Vélivélo, toutes ces associations qui, à un moment donné, agissent dans la pratique de notre mode de vie.
D'accord. Et au jour d'aujourd'hui, un jeune qui voudrait faire la même chose que toi, il y a un cursus particulier peut-être qui en ressort.
Alors, il y en a plusieurs maintenant, mais effectivement, il y a des filières universitaires. Il y a des des découvreurs un peu via les... Il y a des formations universitaires maintenant qui permettent d'aller dans des masters, dans des doctorats, dans des... Donc en fait, effectivement, maintenant, les personnes qui occupent la place que j'ai vue sont surdiplômées, Sciences Po, X et X, des choses, voilà. Mais ça, c'est un petit peu à l'image de toute la société, puisqu'il y a, il y a un siècle, quelqu'un qui avait un certificat d'études, était chef d'entreprise, quoi.
Oui, tout à fait. On évolue toujours, peut-être des fois pas dans le bon sens, mais...
Ça, c'est pas nous, c'est pas nous.
C'est exactement, c'est trop tôt pour le dire. C'est l'histoire contemporaine. Par contre, tu as oublié de nous dire dans tes activités, on y reviendra peut-être plus tard, mais aussi, tu écris des livres.
Alors, effectivement, dans le cadre de mes activités, il y avait des chroniques qui étaient faites
sur la radio, hein,
des émissions à la télé. Il y a eu aussi des chroniques dans une revue Pays du Limousin pendant une quinzaine d'années. Hein. Il y avait des chroniques Folie-Flore qui sortaient tous les deux mois, tous les trois mois, en suivant l'évolution du magazine. Et effectivement, donc quelques mois avant mon départ à la retraite, il y a une boîte, un organisme, une boîte d'édition, donc la FES Édition, qui a cherché sur le Limousin, a fait un livre qui parlait un petit peu du Limousin et de sa nature. Donc on a apparemment, de manière très sympathique, il répondre à une commande éditoriale qui permet de présenter la nature en Limousin, qui a sa spécificité, et surtout peut-être à travers cette nature que tout le monde, quand on vit ici, a fini par banaliser, parce qu'on ne voit plus, alors c'est magnifique, hein, essayer un petit peu de comprendre un petit peu ses problèmes, ses avantages, et surtout qu'est-ce qu'elle peut devenir en fonction de notre façon de l'habiter. Donc il y a un premier livre qui a été fait sur les paysages, et il y en a un deuxième qui va bientôt sortir dans quelques semaines.
On en reparlera.
Sur les entités naturelles.
Tu seras réinvité pour nous parler du livre et nous présenter de façon plus précise. Donc, tu es un passionné, tu as un parcours très très riche auprès de l'environnement, de la nature et aussi des relations humaines, parce que pour le boulot que tu as fait, tu as dû en avoir, tu as beaucoup d'échanges et de partages avec différentes personnes de tout horizon. Quel est le moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière?
Le plus marqué, je ne sais pas si j'en ai un, mais alors déjà, effectivement, la richesse que je peux avoir dans ce domaine-là, elle est due aux rencontres que j'ai eues. Moi, j'ai rencontré dizaines, voire des centaines de spécialistes, de personnes qui étaient dans le domaine de la politique, de l'économie, de l'environnement, de la science, dans différents domaines, puisque l'environnement s'adresse à tous les aspects de la société.
Tout à fait.
Et c'est vrai que le fait de pouvoir discuter avec le spécialiste des problématiques des cancers sur les pesticides, le spécialiste de l'énergie, le spécialiste des caméras thermiques pour faire des animations, enfin, j'ai pu, moi, rencontrer des centaines de personnes, absorber un petit peu de ce que chacun pouvait m'apporter pour le redistribuer donc à tout le monde. C'est ça qui fait un peu la valeur. Donc j'ai été un petit peu comme une rotule qui me permet un petit peu de faire le lien entre plein de choses. Alors c'est difficile d'avoir un élément marquant parce que entre les séjours internationaux où on accueillait les jeunes étrangers des ministères des Affaires étrangères pour le compte de Jeunesse et Sport, entre les voyages à l'étranger, parce que les personnes peuvent dire, s'ils voient la même chose que moi, peut-être qu'ils vont avoir le comportement que je souhaite que l'on ait pour préserver notre capacité à habiter la planète, parce que c'est là le problème de l'environnement.
Oui, c'est ce que l'on fait de la planète, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Quoi.
Ben, c'est pas seulement une activité passion, c'est derrière l'activité passion qui s'intéresse aux oiseaux, s'intéresse à la photo, s'intéresse aux insectes, derrière ça, ce qui motive, c'est effectivement le fait d'avoir compris que nous avons un mode de vie qui ne nous permettra pas d'habiter durablement la planète. Et actuellement, un petit peu, ça c'est quelque chose qu'on regrette, c'est que la quasi-totalité des problématiques que l'on fait émerger au niveau national, au niveau politique, dans notre façon d'habiter la planète, il y a 30 ans, voilà, les associations de protection de l'environnement essayaient de les porter. Hein. Et il y a 30 ans, si on avait pris en compte ces problèmes-là, on en était peut-être, on aurait été malade comme on l'est aujourd'hui. Quoi. Alors que maintenant, on nécessiterait plutôt de la médecine d'urgence. Quoi. Alors qu'on fait encore de l'homéopathie sur l'environnement.
Alors, on va faire une première page musicale. Hein, c'est toi qui as fait ta programmation. Donc, tu as choisi Alain Souchon avec « S'asseoir par terre », Ridan avec « L'agriculteur », Laurent Voulzy avec « Le rêve du pêcheur » et Elmer Footbeat avec « Kourou, coucou, coucou » au tes titres.
Alors, pourquoi ? Ben, je dirais pourquoi pas. Ouais, non, pas... parce que, en fait, j'ai pas un goût, enfin, j'ai pas une. Enfin, je suis assez éclectique en matière musicale.
Je confirme.
Voilà. Ça dépend du moment, de la journée, de l'humeur. Et il y a dans ces chansons qui datent beaucoup des fins des années 80, début 90. Il y en a beaucoup qui, ce que j'aime bien, c'est qu'elles retraduisent un petit peu, ben, à la fois la légèreté de l'époque, qu'on a perdu maintenant.
C'est pas faux.
Je pense à Elmer Fubit, par exemple. Enfin, voilà, des chansons qui.
Ben, au jour d'aujourd'hui, il sortirait, il serait en tôle.
Voilà, ça pourrait pas passer. Voilà. Bon, voilà, donc c'est plus. Je repris un petit peu les. Dans les playlists, entre guillemets.
À l'époque où il y avait une certaine liberté. Oui. Enfin, oui. Une liberté différente.
Quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je l'aurais fait 2 heures plus tard, j'aurais mis d'autres choses, parce que j'ai pas. Voilà. Je ne suis pas un fan de musique, ça dépend le moment, l'heure du jour, l'ambiance, l'état d'esprit.
Ah ben ça je me doute. Enfin bon, tu as choisi quand même des titres, à part peut-être Le rêve du pêcheur de Laurent Voulzy, qui est un énorme tube et tout ça, mais S'asseoir par terre de Souchon, c'est pas une chanson qu'on écoute... souvent sur les radios, ni l'agriculteur, ou même cette chanson d'Elmer.
Mais elles ont toutes quelque chose qui peut faire passer des choses qui sont encore contemporaines, malheureusement.
Eh bien, on écoute tout de suite ces titres et on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie de l'émission.
Bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Le temps d'un jean et d'un film à la télé, on se retrouve à 28 balais, avec dans le cœur plus rien pour s'émouvoir. Alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Depuis le temps qu'on est sur pilote automatique, qu'on fait pas nos paroles et pas notre musique, on a le vertige sur nos grandes jambes de bazar. Alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. J'appuie sur la gâchette accélérateur, y'a que des ennemis dans mon rétroviseur. Au-dessus de 180, je perds la mémoire. Alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. La nuit je dors debout dans un RER, dans mon téléphone tu sais j'entends la mer. Y'a pas le soleil dans ma télé blanche et noire, alors pourquoi pas s'asseoir? Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça. Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté. Tu verras bien qu'il n'y aura pas que moi, assis par terre comme ça.
De télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirais l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Coin de soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sur ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Je me ferai peut-être agriculteur.
et d'océan à l'océan, pêcher des poissons dedans.
retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Vous pouvez aussi écouter l'émission sur le site Les Expats. Donc vous pouvez nous écouter au travers le monde, que ce soit en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Brésil, etc. Aujourd'hui, donc, je reçois Jean-Jacques Rabage qui nous parle d'environnement et qui a été directeur donc de Limousin Nature Environnement et qui est actuellement à la retraite et qui nous parle de ses activités qu'il a eu passées. D'ailleurs, je voudrais revenir à une chose. Il y a quand même quelque chose qui te tient à cœur parce que je t'ai vu animer plusieurs fois sur justement les panneaux solaires et la cuisson solaire. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Et pourquoi, d'où te vient cette passion? Parce que plusieurs fois, je t'ai vu le faire.
Oui, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis passionné par le sujet, hein, les rapports qu'on peut avoir avec l'environnement. Et dans le cadre de la mission, pendant peut-être une vingtaine d'années, j'ai développé, qui était la mission de l'économie. Il y avait une mission qui visait un petit peu à apporter des informations et des éco-gestes hein, qui permettent d'économiser l'énergie. Or, le soleil, c'est quand même la première source d'énergie de la planète, c'est celle qui alimente tous les systèmes, c'est cette source d'énergie qui nous fait vivre. Hein. Mm-hmm. On dépend, ne serait-ce que de ce que l'on mange, est produit indirectement par le soleil. Nous sommes tous des fils du soleil, hein, comme mm-hmm. certaines peuplades amiennes.
Mm-hmm. Oui. Amérindienne.
Oui, amérindienne. Nous, voilà, donc la cuisson solaire, c'est quelque chose en plus qui est un peu fascinant, ça paraît magique, parce que le soleil, on n'imagine pas la puissance qu'il y a. Or, avec un peu de soleil, on est capable de faire chauffer de l'eau. On prend avec du chauffe-eau solaire. Et la cuisson solaire, c'est une façon de montrer qu'il y a, à travers, finalement, des principes physiques très simples, parce que tout ce qui est de l'environnement, c'est de la physique, de la chimie ou de la biologie. Donc, à travers une chose très simple, qui est l'effet de serre, l'effet de cour noire de l'isolation, on est capable de maintenir de la chaleur qui permet de cuire des aliments ou de faire chauffer des choses. Voilà. Donc, ces animations-là, ça permet à la fois de sensibiliser les gens sur ce que l'on peut faire déjà dans une habitation, c'est-à-dire comment on peut faire rentrer de la chaleur et économiser, et à travers aussi une activité manuelle, parce qu'on fabrique souvent des appareils de cuisson, on est capable de fabriquer, ben, comme on pourrait faire des fins dans le clou, on est capable de se fabriquer un cuiseur solaire qui permet de faire cuire, ben, effectivement, en décembre à 2h du matin, mais d'accord. Mais on est capable d'utiliser cette énergie solaire pour faire cuire et faire chauffer.
Il y a eu des progrès de fait déjà là-dessus.
Oui, voilà. Alors, on n'est pas dans une société dont on a besoin de jeter toutes les cuisinières hein, pour pouvoir manger. Par contre, dans certains pays, il y a des associations qui ont développé ces outils parce que ça permet à des endroits encore chercher du bois de plus en plus loin, de cuire l'alimentation alors qu'ils ont plusieurs centaines de jours de soleil, hein, notamment qui sont dans des endroits plus difficiles que nous pour habiter la planète.
Et éviter un peu la déforestation.
Ouais, et de se passer peut-être de 80 ou 90% du bois dont ils ont besoin. Alors nous, à notre niveau, ça reste, j'allais dire, de l'anecdote, mais comme ça intéresse les gens et ça passionne, quand on le fait, quand on a fait cuire un gâteau, quand on a fait cuire un rôti avec la lumière du soleil, ça permet aussi de faire prendre conscience de cette énergie-là, on peut s'en servir peut-être pour faire chauffer de l'eau, pour chauffer des maisons, pour faire chauffer des piscines, avant de penser à utiliser la prise électrique. Et puis les grosses industries qui, au bout de la prise électrique,
Tu fais même c'est pas des glacières.
Des marmites.
Des marmites norvégiennes.
Voilà. Alors là, c'est pas avec le solaire, c'est avec les économies d'énergie. Oui. La marmite norvégienne, c'est un autre outil qui permet de conserver la chaleur, puisque une grande partie des aliments que l'on cuit, ils ont besoin d'énergie. Et si cette énergie, une fois qu'elle est rentrée dans les aliments, si on les met dans un endroit étanche et isolé, on est capable de continuer à cuire. Or, 90% de l'énergie que l'on met pour faire cuire ce que l'on mange, elle cherche à souffler la pièce. Parce qu'une fois que l'eau est chaude, l'énergie, si l'eau bout à 100 degrés, elle va pas monter à 150, parce qu'après c'est de la vapeur. Donc une fois que l'eau est à 100 degrés, si on la maintient à 100 degrés en la mettant dans un caisson étanche, les pâtes, les pommes de terre, la soupe, tout ce qui est dans cette eau-là va continuer. Et si on veut maintenir cette température de 100 degrés en plusieurs heures, puisque souvent, 10-15 heures après, on est encore à 80 degrés, on est capable de pouvoir faire cuire ces aliments sans utiliser d'énergie. Alors pour nous, c'est facile actuellement, parce que quand on appuie sur une prise électrique ou sur un bouton, on n'a pas de fatigue, on ne voit pas un peu d'où vient l'énergie. Par contre, les personnes qui, elles, avant, allaient chercher le bois pour cuire, ben, elles savaient mettre cette marmite sous les dodons. Ça permettait de déjà chauffer le...
D'ailleurs, lors de certaines animations, tu montrais comment le faire, et c'était relativement passionnant, voilà. Parce qu'on peut le faire avec des anciens vêtements, des anciens...
Voilà, en fait, il faut comprendre que ce qui isole physiquement, c'est pas la matière, c'est l'air. Donc dès qu'on a quelque chose qui est plein de bulles d'air et stable, un double vitrage, c'est de la fibre de bois et de l'air dedans. Donc dès que vous maintenez quelque chose qui est plein de bulles d'air, qui est épais et léger, ben, en général, c'est un très bon isolant.
D'accord.
Donc on essaie de faire comprendre le principe physique, mais qui peut permettre de faire économiser beaucoup d'énergie si on s'y tenait un peu plus.
D'ailleurs, je fais une petite aparté. Aux auditeurs, Limoges Nature Environnement, les France Nature Environnement de France et de Navarre organisent des animations, notamment les dimanches nature que nous avons ici en Haute-Vienne et qui sont très suivis et où on apprend plein de choses. Et des fours solaires, etc. C'est une animation que Limoges sur comment protéger les hérissons, comment protéger, comment greffer les pommes, ce genre de choses. C'est très très vaste et varié. Hein, que vous soyez à Lille, à Marseille, à Limoges, etc. Je ne sais pas si dans d'autres pays ou dans d'autres coins du monde, ça aide d'aller vers ce genre d'animation.
Il a fallu effectivement se mettre à la page de la régionalisation, qui fait partie accueille de nombreuses associations qui ont tout un programme d'activités, alors soit thématique, on peut rappeler aux auditeurs de RTF, que RTF est une des associations membres de France Nature Environnement Limousin. Donc, à travers aussi ce genre d'émission et l'intérêt qu'elle porte à l'environnement, chaque association va mener des animations grand public. Il y a les études qui sont faites, il y a le travail qui est fait auprès des acteurs économiques, politiques, de manière à mettre en place des règles du jeu dans la société qui nous permettent peut-être d'être plus respectueux de l'environnement. Mais c'est aussi une façon pour les associations de rencontrer le public, parce que je vous rappelle qu'une association, ça fonctionne souvent par des bénévoles, et ça s'adresse souvent au grand public.
Tout à fait. Et donc, c'est... Et on peut en trouver, par exemple, en Australie, ce genre de choses. Un exemple peut-être... est-ce qu'on... dans les pays... au travers le monde, quoi.
Alors, le mouvement associatif, il est un petit peu spécifique de la France. Il n'y a pas des associations partout. Par contre, il y a des ONG, des organisations non gouvernementales, partout, qui s'occupent de l'environnement, partout sur la planète. Il n'y a pas un pays qui n'a pas actuellement de préoccupations environnementales, puisque de toute façon, l'environnement, c'est quelque chose avec laquelle on doit s'équilibrer si on continue à vivre. Soit on est en phase avec notre environnement, soit on disparaît. Donc, l'environnement, l'écologie, c'est la science qui permet finalement de comprendre notre façon d'habiter cette planète. Donc ça se trouve partout. Alors, il n'y a pas forcément le même système et la même organisation, mais il y a des mouvements de protection de la nature, avec bien sûr la capacité de pouvoir transmettre au grand public, puisque ça fait, c'est aussi l'objet, si ça reste que... Une étude scientifique, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il faut que ce soit partagé par tout le monde pour que ce soit efficace.
Ça serait un rêve d'avoir une fédération mondiale.
J'allais dire non, parce que moi, je suis pour, on milite pour la biodiversité, donc la diversité, y compris les systèmes sociaux et humains, c'est important. C'est l'objet qui est mondial, c'est la protection et la sensibilisation à l'environnement, c'est mondial. Après, le fait que ce soit une association, que ce soit une entreprise, que ce soit un organisme, comme d'État, c'est surtout la façon dont on le fait qui est important, et c'est surtout l'efficacité des moyens qu'il a pour le faire.
D'accord, ce qui devient de plus en plus compliqué au jour d'aujourd'hui.
Alors, effectivement, c'est un sujet
qui est délicat.
Alors, oui, mais ça veut dire que ça avance, c'est-à-dire qu'il y a 35 ans, ça passionnait les gens, ça intéressait, ça faisait sourire, mais ça ne mangeait pas de pain, quoi, l'environnement, ça ne nous obligeait pas à changer de mode de vie. Alors, à l'heure actuelle, l'envie commence à nous montrer les limites de notre façon d'habiter la planète, et ça nous agace, parce qu'effectivement, on veut bien trier, mais on ne veut pas réduire les déchets. On veut bien préserver la planète, mais on ne va pas rouler moins vite. On veut bien... En fait, dès qu'on commence à rentrer dans les causes des problématiques de l'environnement, on s'aperçoit que ben, ça touche notre façon, qu'on doit bouger notre façon d'être. Et ben, on fait de la résistance. On est malheureusement humain. Et la nature humaine, elle a cette capacité à pas toujours pouvoir corriger directement ce dont elle est responsable.
Malheureusement.
Voilà.
Ouais, malheureusement.
Donc, si actuellement ça devient dur pour l'environnement, c'est aussi parce que ça devient un moment intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un monde de vérité.
Oui.
Alors qu'il y a 40 ans, ça faisait partie, bon, des projections futures, oui, ça peut arriver, mais ça, oui, changement climatique. On peut en parler il y a 25 ans. Disons, qu'est-ce que c'est le changement climatique? Vous sortez d'où? Voilà.
Le scepticisme, voilà, là, etc.
On commence à voir, voilà, les.
Pourtant,
les problématiques d'assurance, voilà.
Pourtant, de grands dirigeants mondiaux sont contrebalance et des gens votent pour ces gens-là, quoi.
C'est-à-dire que
et pourtant ils le payent.
Oui, sauf que, alors je ne veux pas les excuser, mais les dirigeants mondiaux, ils n'ont pas été élus pour sauver la planète.
C'est vrai.
Ceux qui ont dit qu'ils voulaient le faire, ils font deux ou trois.
Oui.
Donc voilà, donc indirectement, j'allais dire, voilà, si les gens ont voté pour eux, ben peut-être qu'on ira plus vite dans les problèmes, mais de toute façon, on ira. Et bien, ces dirigeants qui vont pouvoir modifier les règles de l'environnement.
Eh bien, on va faire une page musicale, si tu es bien d'accord. Donc, tu as choisi Eddy Mitchell avec Couleur Mentalo, Nick Sanson avec Besoin de Personne, Bernard Lavillier avec La Saisie. Non, La Salsa, pardon, excuse-moi. Je n'ai pas pris mes lunettes. Francis Cabrel avec La Corrida. Alors, pourquoi ces choix? Je te rappelle comme pour la première partie.
Eh bien, comme pour la première partie, pourquoi pas?
Pourquoi?
Bon, disons que ce sont des chanteurs qui, à un moment donné, ben, Johnny Clegg, c'est quelque chose.
Ah non, c'est pas Johnny Clegg.
Bernard Lavillier. Voilà. Bernard Lavillier, voilà. C'est des gens qui, à une époque, dans les années 80, j'écoutais souvent. C'est des gens aussi qui ont quelques messages qui correspondent à des problématiques environnementales ou sociétales. Donc, c'est aussi une musique un peu calme aussi, tranquille. Voilà, c'est pas non plus, ça tape pas trop fort, ça fait pas mal aux oreilles.
Comme dirait Renaud, j'étais tranquille, j'étais peinard. Ouais. Eh bien, on va écouter ça tout de suite et on se retrouve tout de suite après.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au jukebox. Elle rêvait qu'elle causait juste pour un bout d'essai à la Century Fox. Na, 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 na. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo cherchent du regard un spot de dieu projecteur. Et moi je n'en pouvais plus, bien sûr elle ne m'a pas vu, perdue dans sa mégalo. J'étais de trop. Elle marchait comme un chat qui méprise sa proie. En frôlant le flipper. La chanson qui couvrait tous les mots qu'elle mimait semblait briser son cœur. Elle en faisait un peu trop, la fille aux yeux mentalos, Hollywood dans sa tête, toute seule elle répète son entrée dans un studio. Décor couleur mentalo, perdu dans sa mégalo. Moi je suis le trop. Et le charme est tombé, arrêtant le flipper. Ses yeux noirs ont lancé de l'agressivité sur le pauvre jukebox. La fille aux yeux mentalos a rangé sa main et se soumise aux yeux noirs, couleur de trottoir. Et moi je n'en pouvais plus, elle n'en a jamais rien su. Ma plus jolie des mythos, couleur mentalo.
Choisir le chemin de ma vie, besoin de personne gang était là. Ceux de Porto Rico, ceux de Cuba, les macros de Harlem, les revendeurs de coke ou de coca, ceux qui vivent au soleil, avec des femmes blanches dans les villas, et ceux qui mangent pas, ça fait comme des nababs à l'opéra. La voilà!
C'est une latine, de Manhattan, de la résine, de macadam, un coup de fouet, des hauts en bas, qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine, qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Une sauce mélo, de te quiero mucho et de cafard. Une sauce mêla, c'est le Christ qui te saigne pour 20 dollars. Une sauce mêlée, de beauté, de souplesse et de conga. Une sauce lamée, comme la peau de la fille qui danse pour moi. La salsa!
C'est une latine, des Manhattan, de la résine, des macadam. Un coup de fouet, des hauts en bas, qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine, qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa. Rebaleto. Chaude, je la garde serrée contre mon cœur, malgré la mort qui rôde. Chuchote en quelque chose à son chauffeur. Y'en a marre des palaces, elle s'en va faire des passes pour le panard. Je la suis à la trace, ramassant ses paillettes sur le trottoir.
C'est une latine de Manhattan, de la résine, de macadam. Un coup de fouet, des hauts en bas, qui te soulève, c'est la salsa.
C'est une frangine portoricaine, qui vit dans le Spanish Harlem, les reins cambrés au bon endroit, elle est superbe, c'est la salsa.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros.
Otras vidas y otros toros. Mataremos otros.
Venga, venga, baila. Y mataré los otros.
Vous êtes toujours sur RTF 95.4 hein, ou sur www.rtflimoche.com dans le Café des Amis Et aujourd'hui, je reçois donc Jean-Jacques Rabache. Vous pourrez nous écouter en podcast dès demain lundi, mais aussi sur le site des expats, qui est notre partenaire privilégié. Voilà, Jean-Jacques, donc nous parlions de plein de choses. Qu'est-ce que tu... on a parlé, le Roundup, les produits phytosanitaires, je ne me trompe pas le mot, hein, les produits phytosanitaires. Et au jour d'aujourd'hui, on vient de réintroduire un pesticide violent dont il y a eu des nombreuses études, et en France on l'avait interdit pour une bonne raison, c'est que on avait vu qu'il y avait des incidences sur certains cancers. Je me trompe pas dessus. Je pense que ça c'est un débat, c'est une question d'actu.
Très longtemps, la politique entre guillemets des associations de protection nature vise à alerter notre société sur tout ce qui est utilisation de produits. En fait, ce qui n'est pas fabriqué par la nature, mais synthétisé, c'est-à-dire ce qui n'existe pas dans la nature, quelque chose que la nature ne sait pas recycler. Et par la bioaccumulation, ces produits-là se retrouvent dans les organismes, en bout de chaîne alimentaire, que sont effectivement les animaux comme les humains ou autres. Alors, dans ce cadre-là, nous avons développé depuis maintenant 80 ans, une agriculture qui utilise beaucoup de ces produits de synthèse pour pouvoir produire ce qui nous nourrit. On en voit les limites à l'heure actuelle, et les associations de protection de la nature ne demandent pas qu'on arrête l'agriculture, parce qu'il faut qu'on mange. L'agriculture, c'est une activité qui est noble et saine. Et justement, parce qu'elle est faite pour nous nourrir, elle devrait être très contrôlée et très surveillée. C'est un petit peu ce que font les agences. Mais ces molécules de synthèse, donc ce qu'on appelle ces produits phytosanitaires, que nous on appelle des pesticides, parce qu'en fait c'est souvent fait pour tuer. C'est fait pour tuer des champignons, hein, c'est fait pour tuer des insectes, c'est fait pour tuer des rats. Sous ces animaux qui finissent par icides sont des produits qui, indirectement, vont aussi, à moyen terme, nous tuer. Alors, ce ne sont pas des produits qui vont nous tuer directement parce qu'on n'en boit pas des litres.
Oui.
Par contre, ce sont des produits qui, de par leur structure, agissent, et ça c'est les médecins qui le disent, pas moi, hein, vous pouvez reporter un petit peu leurs études, des produits qui agissent un peu comme des hormones, c'est-à-dire qu'elles vont modifier, elles vont introduire un peu des virus dans le code génétique, qui à un moment donné font des cancers de la prostate, enfin, ou même d'autres cancers qui sont liés à l'usage des années. Quand nous avons, nous, en 2018, travaillé sur l'opération Objectif Zéro Pesticide dans nos villes et villages, on a incité les communes volontaires, puisqu'à cette époque-là, la loi n'interdisait pas d'aller dans les caniveaux et se rejoigner les cours d'eau, alors qu'il n'y a pas, en plus, d'impératif économique. Donc, on avait développé, avec des communes qui étaient volontaires, des opérations Zéro Pesticide, de manière à montrer que l'on peut entretenir une commune sans être envahi par la ronce, en utilisant des choses, des méthodes. Donc effectivement, il existe tout le temps des méthodes alternatives, hein, et nous, on a plutôt fait le choix d'utiliser ces produits chimiques. Alors la loi et l'évolution a amené ces dernières années des règles du jeu qui visent à ne plus utiliser ou moins utiliser ces produits. Là, actuellement, on a une loi qui vise à revenir donc en arrière pour pouvoir réutiliser ces produits-là. C'est-à-dire qu'au lieu de changer de pratique, on s'aperçoit que la pratique que l'on a ne fonctionne pas sans pesticides. Donc au lieu de dire, j'abandonne cette pratique et je cultive d'une manière à les réutiliser, sauf que ces pesticides, on le sait, ont des effets à moyen terme et à long terme sur la santé d'une population.
Et une aparté plus ou moins politique, est-il normal que certains pays d'Europe, on parle de l'Europe, autorisent, alors qu'en France, on dit je ne me rappelle plus le nom, a été réintroduit en France, c'est pour faire une question d'équité entre nous. L'Europe ne dit pas non.
Les néonicotinoïdes, ce sont des produits qui sont dérivés d'ailleurs de nicotine, un produit naturel, mais dans lequel on a ajouté des radicaux de chlore pour les faire breveter, parce que ça ne trouve pas dans la nature, et puis ils les vendent derrière à l'industrie chimique agroalimentaire. Alors, oui, mais il y a un problème politique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables, à l'échelle de l'Europe ou de la planète, qui disait alors, plutôt que de dire, nous, si on est d'accord en France pour ne pas l'utiliser, eh bien, on dit, je ne fais pas rentrer ces produits. D'ailleurs, sauf que on n'est pas capable, parce qu'on a décidé que le marché européen est un truc sacro-saint auquel il ne faut pas toucher, eh bien, au lieu de s'adapter et de faire évoluer ce marché, on a pensé qu'il vaut mieux contraindre, finalement, la santé humaine à dire on va supporter ces produits. On ne peut pas. C'est-à-dire que, on voit bien que souvent, l'environnement, c'est l'arbitre des problèmes politiques et économiques.
Tout à fait.
Or, en fait, le politique et l'économique, c'est ça qui se discute. Ça, c'est la nature humaine qui le fait. Mmh. L'environnement, ça ne se discute pas.
Oui, je suis d'accord.
Donc en fait, on le voit bien, on utilise encore une variable d'ajustement. Alors, ça va être interdit de l'Europe en 2030. En France, on était un peu en avance. Tant mieux, il fallait en profiter. Mais la difficulté, c'est que l'avance que l'on a eue,
on va la reperdre.
Au lieu de s'en servir pour en avance sur les pratiques alternatives, on s'en sert pour faire durer le plus longtemps possible l'ancien système. Quoi. Mais de toute façon, l'histoire montre que 10, 20, 30 ans après, c'est produit. Parce qu'on va vraiment s'apercevoir des problématiques. Il y a 30 ans, le changement climatique, les gens ne voyaient pas ce que c'était. Maintenant, quand on commence à dépasser des populations parce qu'ils sont dérangés par...
On n'est pas encore prêt. Il va falloir une grosse catastrophe. Grosse catastrophe pour que tout le monde... je crois qu'on a atteint le point de non-retour. Alors, mais est-ce que combien de morts ça va occasionner pour que les gens aient une prise de conscience, quoi. Bon.
La pragmatique, tous les gens qui naissent vont mourir. Pas plus de morts que les gens qui naissent.
C'est ça.
Par contre, c'est quelle est notre condition, notre qualité de vie. C'est tout ça qui est important.
Oui, tout
parce
à fait.
Que de toute façon, on va pas faire des gens qui vont vivre éternellement. C'est pas non plus l'objet. Par contre, effectivement, c'est cette qualité de vie. Il faut rappeler que l'environnement, c'est une discipline, quand on fait de la protection de l'environnement, c'est un objet associatif qui bénéficie aussi aux gens qui ne sont pas adhérents des associations. Hein. Mmh. On peut faire de la chasse, de la pêche, du foot, du théâtre. Mmh. Ce que l'on fait est surtout destiné aux gens qui font du foot, de la chasse, du théâtre. Ceux qui en font pas ne sont peut-être pas très bien concernés. Par contre, l'environnement, quand on préserve l'eau, l'air et le sol, ça profite aussi aux gens qui se foutent de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. C'est pour ça que c'est une activité qui est reconnue d'intérêt général.
Général, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Nous n'avons pas d'intérêt particulier à agir sur la protection de l'environnement. On est bien d'accord, c'est un intérêt collectif.
Voilà. Collectif.
Ceci dit, on voit bien que quand on fait évoluer notre mode de vie par des règles du jeu, de manière à nous inciter à faire mieux, eh bien, il y a des moments où il y a des frictions entre les capacités que nous avons intellectuellement à nous adapter à un autre mode de vie et ce que peut supporter économiquement les personnes.
Oui, tout à fait. Et puis, les gouvernements, ils sont surtout axés sur les économies, on va être très clair. Mais par contre, je crois que c'est à court terme, parce qu'ils ne font pas de long terme. Et personnellement, en réintroduisant ce genre de produit ou en gardant ce genre de produit, c'est se tirer une balle dans la tête à moyen terme. Parce que les gens qui vont être atteints de ces cancers, voire cancers rares, il va bien falloir les soigner. Et l'argent qui n'est pas mis actuellement, il faudra le mettre à ces gens-là. On marche un peu sur la tête.
C'est le principe de précaution. On pense que, je reviens à la nature humaine, peut-être que nous n'avons pas un cerveau qui est suffisamment construit pour pouvoir... imaginer ces choses-là. Ouais. Nous sommes capables d'imaginer un danger immédiat. Nos ancêtres étaient capables de sortir d'une grotte quand il y avait un ours qui était dedans ou un tigre des galères qui était dedans pour se protéger parce que le danger était immédiat. On n'est pas forcément capable d'imaginer quels peuvent être les effets sur par rapport à des gens qui utilisent, qui manipulent des pesticides puisque ce sont des cancers qui souvent vont se développer. Une génération après, c'était le professeur Belpomme, qui est un spécialiste, un cancérologue de l'hôpital Pompidou, qui a travaillé un des premiers en France là-dessus, et qui a fait beaucoup d'études en usage et la vie.
D'accord. Je vois bien où nous en sommes et oui, c'est peut-être le cerveau humain qui va pas. Et puis bon, aussi ce que une chose qui est humaine et qui fait beaucoup de mal à l'humain, c'est l'habitude. C'est-à-dire que grand-père il faisait ça, ben il faut continuer. Et c'est une question d'habitude. Après, c'est une question de conscience.
Oui, mais pour beaucoup d'agriculteurs, les grands-pères ils utilisaient pas les pesticides.
Certains.
Voilà. Oui, les générations actuelles qui.
Je parle des générations d'après-guerre.
Voilà, c'est ça. Mais il y en a encore qui beaucoup n'utilisaient pas et savaient produire.
Tout à fait. Eh bien, nous allons faire une page musicale avant d'attaquer la dernière partie de l'émission. Alors, tu as choisi Renaud avec la ballade nord-irlandaise, Michel Polnareff avec Goodbye Marie-Lou. Johnny Cage, enfin, tu m'en parles depuis tout à l'heure. Donc, Scattering of Africa. Et France Gall avec Si. Or que la même phrase, vas-y.
Pourquoi pas, c'est ici. Hein? Non, il n'y a pas de message subliminal à y chercher. Voilà, c'est des musiques et des mélodies que j'écoute ou que j'ai écouté beaucoup au fil de mes années passées. J'espère encore venir. Ceci dit, j'écoute quand même aussi des choses très contemporaines.
En écrivant tes livres, quand tu étais en activité, t'écoutais musique
quand je voulais, quand je me déplaçais.
Hein, ah ben oui, c'est vrai que tu as fait beaucoup de route.
Voilà, j'avais pas quelqu'un qui était branché tel type de musique. Par contre, je suis intéressé, tel type de musique m'intéresse. Alors des fois, je dis waouh, c'est dur. Parce que je ne comprends pas, mais si quelqu'un qui vit bien sa musique me le fait partager, je lui trouve du plaisir. Hein,
c'est comme ça. Mais on écoute ta belle programmation musicale. On se retrouve tout de suite après pour la dernière partie de cette émission.
Planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des goupillers. Jusqu'à Derry, ma bien-aimée, sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai dit aux femmes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer. Lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Faux Dieu, à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés,
pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté.
Clavier, ma vie lourde. je m'envoie son pseudo, mais c'est elle qui me reçoit. Jusqu'au petit jour, on se dit tout de nous. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont voix qu'on se dit avec les doigts. Et j'envoie dans la nuit un message pour celle qui m'a répondu ok pour un rendez-vous.
Need the compass. ira vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Je vous signale que vous pouvez l'écouter aussi sur le site des expats. Les expats, ce sont les expatriés français tout autour du monde qui écoutent par rapport au site radio des expats. Et vous pouvez nous retrouver demain sur le site de RTF, www.rtf.com, pour écouter l'émission. Voilà, aujourd'hui donc on va finir l'émission avec Jean-Jacques Rabache, que vous verrez, et ça sera une surprise, plusieurs fois cette année, cette saison. On continue donc avec avec Jean-Jacques, et on va parler peut-être des étangs, parce que justement on parlait des étangs. Vas-y, dis ce que tu me disais pendant la programmation musicale.
Oui, voilà, on réfléchit actuellement dans le monde de l'environnement, parce que nous ne sommes pas. L'environnement, ce n'est pas un dogme, hein, c'est pas une religion, c'est quelque chose qu'il faut actualiser. Nous avons des problématiques qui sont liées à la qualité, mais à la quantité d'eau. Ce sont des choses qui vont beaucoup discuter. Et nous avons, de par notre histoire, créé en Limousin plusieurs dizaines de milliers d'étangs sur les
dizaines autant de que milliers ça
de kilomètres, à peu près 25 000 étangs, points d'eau, qui sont référencés actuellement, hein, pas de tous ceux qui ne sont pas référencés, sur à peu près 12 ou 15 000 kilomètres de ruisseaux. Donc en fait, il y a pratiquement un étang tous les 500 ou 600 mètres de cours d'eau en moyenne. Or, il faut savoir qu'un étang, c'est de l'eau stagnante, qui est plus chaude, qui n'a pas de courant, qui est un monde totalement différent par rapport à l'eau qui est dans les rivières, qui est des eaux qui sont des eaux rapides, froides, oxygénées. Or, les étangs qui ont été construits ont coupé ce qu'on appelle la continuité écologique des rivières. On en paye actuellement les tributs. Et ces étangs contribuent à la fois à altérer la qualité de l'eau, elle en modifie la qualité biologique, elle est différente, moins adaptée à nos besoins, et en plus elle favorise l'évaporation de, et donc la perte en eau. On sait qu'actuellement, avec le changement climatique, nous avons, dans les années qui viennent, nous sommes soumis à ce qu'on appelle un manque d'eau. La quantité d'eau qui va tomber, elle ne va pas forcément changer, elle va changer de rythme, elle va simplement circuler de manière différente, et c'est vrai qu'on risque de manquer d'eau. Donc en fait, la réflexion qui se pose, c'est que faire de ces étangs. Alors il y a des capacités actuellement administratives qui permettent de dire, on va mettre les étangs aux normes, c'est-à-dire on va faire des travaux pour permettre à la rivière, non plus de traverser l'étang, mais de contourner l'étang.
Ce qui a été fait à Usura.
Ce qui est fait à Jura, ce qui est fait depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc on va mettre des étangs aux normes, c'est une règle, c'est une loi. Mais il y a aussi le fait de dire, est-ce qu'on ne peut pas effacer un étang, c'est-à-dire faire disparaître un étang qui n'a plus d'usage comme s'il avait été créé il y a 40, 50, 60 ans. Et là, on se retrouve à un autre problème, c'est oui, mais si on efface un étang, on va peut-être aussi perdre des libellules, perdre des chauves, perdre des grenouilles, perdre certains poissons qui ne vivent pas dans les rivières. Donc en fait, il y a un arbitrage à faire entre la qualité, la quantité d'eau, l'intérêt pour la biodiversité. Donc ce travail-là, il se fait au sein des associations de protection de l'environnement, puisque l'environnement, ce n'est pas non plus une science exacte, on s'appuie sur des études scientifiques, et pour appuyer nos politiques vis-à-vis des élus, vis-à-vis des entreprises, mais vis-à-vis des organisations professionnelles, mais aussi pour appuyer nos arguments vis-à-vis du grand public, nous réfléchissons et nous travaillons sur des sujets qui ne sont pas totalement réglés. Donc, la gestion des étangs en Limousin, c'est une problématique comme la gestion des bassines dans les zones agricoles en Poitou-Charentes, comme peut avoir certaines zones, notamment de gestion forestière dans les Landes ou autre. Donc en fait, ce sont la gestion de l'ours ou du loup dans certaines régions de montagne. Donc en fait, ce sont des choses sur lesquelles nous sommes constamment obligés de faire des études et de discuter nos arguments de manière à ce qu'elles correspondent au mieux à l'activité
sur place, de la société. Hein. De nos sociétés. Alors, dans la dernière partie, en général, je demande à mes invités de parler de leurs projets, de leurs objectifs. Donc, la parole est à vous.
Des projets, ben, justement, j'allais dire, j'en ai plus.
Un menteur.
Non, mais je n'ai pas. Je ne suis pas arrivé à la retraite en disant j'attends la retraite absolument pour pouvoir faire telle et telle chose. Voilà. J'ai pas été en souffrance professionnelle, j'ai eu la chance d'arriver et en me faisant plaisir, parce que c'était une chose, l'objet me passionnait, hein, c'est une conséquence, il y avait des choses qui me passionnaient, qui me passionnent encore, donc j'apporte, suivant les besoins et mes compétences, de l'aide bénévole au mouvement associatif. Hein,
tu es toujours président de l'Andou Loisir aussi.
Voilà. Alors en plus, je suis intéressé par le monde associatif,
tout à fait.
Donc le fait associatif, et via l'activité sportive que je faisais avant, mais que je continue, qui est le tennis, je suis arrivé à la tête de la présidence de l'association qui est sur le quartier de Landou, je vais vous dire. Et là aussi, c'est une activité qui est intéressante, parce qu'elle permet vraiment d'agir sur l'objet associatif, que ce soit le basket, le tennis, le théâtre, la couture ou autre. Chacun mène
le yoga.
Alors, il y a eu du yoga maintenant, il y a du tai chi, il y a du rollyball qui est un nouveau sport qui se développe. Donc, en fait, on est. Chaque spécialiste et chaque club gère sa politique sportive ou culturelle. Par contre, on essaie de le faire avec un état d'esprit qui vise à responsabiliser les gens, les mettre, les associer à la vie du quartier, voilà, les responsabiliser de manière à ce que le bien vivre ensemble. Soit quelque chose qui soit soutenu par l'activité associative, même si on fait de la compétition, c'est
pas dans toutes, mais
oui, voilà, mais c'est avant tout pour pouvoir aussi assurer du bien-être du vivant.
Et se retrouver et d'échanger.
Voilà, c'est ça, mais c'est l'objet associatif qui m'intéresse. Voilà, donc effectivement, ça fait partie des. J'ai fait beaucoup de photos, voilà, j'ai passé un diplôme de pilote de drone pour pouvoir faire des photos aériennes de milieux naturels. J'ai pu aller un peu plus loin dans mes passions, puisque j'avais un peu plus de temps pour me former. Mais je n'ai pas de rupture particulière. J'ai simplement plus de temps, donc il y a plus de plaisir, puisque je n'ai plus le sac à dos peut-être lourd de celui de la direction d'une structure, en sachant que dans une association, et je pense à ce qui m'a remplacé, effectivement, il faut s'assurer les problèmes de trésorerie qui sont grands, les problématiques administratives.
C'est compliqué.
Les financements, voilà, la gestion sociale, les collègues et autres. Donc en fait, la même chose, mais en mieux. Voilà. Et mon objet, bien, c'est que ça dure.
Et que tu écris maintenant.
Voilà.
Et que tu écris. Et le prochain, donc, sort bientôt. Et le premier parlait de quoi tu...
Alors, le premier, donc, il présentait le Limousin. Alors, c'est pas une voie scientifique, c'est pas pour les universitaires, c'est pour le grand public, personne qui veut découvrir le Limousin, qui veut. Ça parle souvent, ça parlait de la nature en Limousin, mais avec une clé d'entrée, celle des paysages. Et là, le prochain, il va parler aussi de la nature, en parlant un peu plus cette fois-ci des espèces, avec comme clé d'entrée les milieux, les entités, les eaux douces, les eaux rapides, les zones boisées, les zones agricoles, les landes humides, les landes sèches, avec les espèces. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, ces espèces-là, ces milieux-là, nous parlent, nous interrogent. C'est une façon de l'habiter. Est-ce qu'on se bat pour préserver le bocage, alors qu'on achète, qu'on mange de la viande qui est plutôt produite par de l'industrie, avec de la viande en batterie, qui ne génère pas, parce que le bocage date de l'économie du 19e siècle, du début du 20e, alors qu'on ne vit plus de ça. Est-ce qu'on ne veut plus de mines, de puits de pétrole ou de mines d'uranium, mais on ne veut pas d'éoliennes, mais on continue à avoir du tout électrique, donc il faut faire des trous quelque part sur la planète. Avoir le minerai, l'uranium ou autre. Donc en fait, on interroge un petit peu sur cette qualité d'environnement qu'on a en Limousin qui n'est pas forcément en relation avec notre façon de l'habiter.
J'avais lu dans le populaire du centre de Limoges, il y avait eu un article, c'est assez vieux d'ailleurs, où les politiques de tous bords voulaient, alors je ne sais pas si tu es... si ça avait été consulté là-dessus, végétaliser tous les bâtiments administratifs, mais également des HLM, tout ça, et mettre des panneaux solaires surtout. Est-ce que c'est une solution énergétique pour toi?
Alors, ça fait partie des choses dont on a fait la promotion. Il faut réhabiliter, végétaliser,
mais l'arbre,
ça va pas vite. Mais depuis, j'allais dire, 8, nous avons travaillé sur ces problématiques-là. Il y a un petit dada, si j'en chauffe chez moi, plutôt que de me payer une climatisation en blanc, c'est 5-6 degrés de moins.
C'est énorme.
Et ça coûte pratiquement rien.
Et la peinture.
Jours, avec des températures qui vont venir. Donc en fait, voilà. Donc, on voit bien qu'effectivement, notre plan d'occupation des sols n'est pas adapté. On autorise sur les bâtiments administratifs. On va le faire sur les nouveaux bâtiments depuis la ville de Limoges, par les sports. Les toits seront blancs pour éviter la surchauffe. On revient à des choses logiques. Par contre, pour le grand public, est-ce que j'ai le droit de le faire? Non, pour le moment. Voilà. Donc en fait, on voit bien que notre société elle est un petit peu coincée par des règles qui étaient peut-être justifiées il y a 30 ans et qui maintenant nous empêchent de nous adapter à l'environnement qui change. Et comme je l'ai dit en début, tout système qui ne s'adapte pas à l'environnement, il disparaît.
Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, je voyais des maisons avec végétalisées. Aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus. L'épaisseur des murs, les vieilles maisons comme celle de la mienne, par exemple, un mètre de mur. Hein, et en haut, c'est du torchis, très isolant, on va être très clair.
Pour habiter comme on fait maintenant. Hein.
Non.
Voilà, donc, parce qu'un mètre de mur, c'est 8 mètres d'air, c'est pas terrible en plus. Hein. Ça, il y a beaucoup d'inertie, mais c'est pas isolant. Voilà, la pierre, ça isole pas. Par contre, effectivement, si on va dans des villes comme Fribourg, en Allemagne, hein, vous avez des maisons végétalisées, ossature bois, avec des grands arbres en ville. Voilà. Il y a déjà des villes qui, il y a 25 ans, ont montré, à titre d'exemple, ce que peut être une ville d'aujourd'hui, mais qu'on aura peut-être demain, si on a le temps.
J'ai vu que, ça c'est pour l'anecdote rigolote, j'ai vu que le prince Charles, enfin pas le prince Charles, le roi Charles d'Angleterre, avait créé une ville de toutes pièces où il avait pris en considération tous ces arguments environnementaux il y a des décennies. Donc c'est au milieu des années 70.
Et comme tout a été fait avec l'harmonie et l'environnement, ça coûte pas finalement très cher d'y vivre parce que on dépense pas beaucoup d'argent pour l'énergie pour le chauffer, on dépense pas beaucoup d'argent
pour se refroidir.
Chaud, voilà. on n'a pas besoin de se déplacer parce que effectivement on a la vie est organisée avec les magasins de proximité au milieu les gens. On a par exemple le supermarché. Au-dessus, on a les bureaux d'administration et au-dessus, on a les habitants. Voilà. Donc, effectivement, l'énergie dépensée par le supermarché pour refroidir les congélateurs, ça sert à chauffer l'administration. La personne qui habite au-dessus, si elle a besoin d'administration, elle n'a pas besoin de prendre sa voiture pour aller à l'autre bout de la ville pour aller voir les gens. C'est-à-dire qu'il y a
une réflexion
qui a été faite sur la façon d'habiter.
Tout à fait.
Ces choses-là. Alors, avec les matériaux. Biosourcés, voilà, tout ce qui va bien. Donc, il y a un exemple, il y a des quartiers, notamment à Fribourg, qui ont été faits il y a 25-30 ans. Il y a des élus de Limoges, d'ailleurs, qui étaient déplacés pour aller voir ce qui se faisait. Hein. Donc, ça veut dire qu'on commençait déjà à en parler. Mais bon, ça ne répondait pas forcément à des besoins immédiats que demandent peut-être aussi les personnes au quotidien.
Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ça devient urgent.
Ah, ben, de toute façon, oui, on n'aura pas le choix, c'est ce qu'on dit. Soit on s'adapte, soit on disparaît.
D'accord. Eh bien, on va terminer sur ces belles paroles. Peut-être que tu as quelque chose qui te tient à cœur à nous dire de tes projets futurs. Tu peux nous inviter à Limoges Nature Environnement. Limoges. Fédération Nature Environnement. J'y arrive une fois sur deux. Hein. Donc, si tu... si tu as un projet, une animation, courant septembre, courant octobre, il n'y a rien de tel de prévu.
Alors, il y a sûrement des choses de prévues, je n'ai pas dans la tête. Par contre, il y a le site, effectivement, de France Nature Environnement.
Il y a les champignons, je peux le dire.
Avec, effectivement, le programme des activités ouvertes au public. Et puis, comme on est dans un moment qui bouge beaucoup, nous avons souvent, des fois, des activités qui arrivent rapidement. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter le site de France Nature Environnement Limousin ou la page Facebook ou autre.
Tout à fait, oui, c'est occupé, oui. Elle travaille beaucoup, la jeune fille qui s'en occupe. Mais écoute, je te remercie bien et je te dis à très, très, très vite. Hein. On va se quitter avec Françoise Hardy, l'amitié. Michel Fugain avec Bravo Monsieur Le Monde. Jacques Dutronc avec l'opportuniste. Et Mylène Farmer avec C'est une belle journée. Alors, je te rappelle pas, c'est que tu as aimé ces titres.
Voilà, dans ces titres, on peut trouver des choses en relation avec notre époque aussi, même si c'est des chansons qui datent pour certains d'une autre époque.
Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés. Tu veux peut-être dire quelque chose pour conclure à nos auditeurs?
Non, bah écoutez, c'est un plaisir déjà de pouvoir échanger avec toi, Pierre. Et puis voilà, en espérant que les auditeurs, dont certains
Francis Gallet.
Ils avaient des objecteurs de conscience qui étaient mis à disposition à RTF, puisque je ne peux pas le dire, mais à cette époque-là, les gens qui étaient objecteurs de conscience n'avaient pas le droit de s'exprimer à la radio. Donc, la RTF n'avait pas le droit d'avoir ces objecteurs. Donc, c'était la FETNA qui mettait à disposition ces objecteurs. Donc voilà, donc c'est.
C'est pour l'anecdote.
40 ans, voilà, c'est ça maintenant. Et il n'y a plus d'objecteurs de conscience. Donc, voilà, mais globalement, c'est parce qu'effectivement, c'est. Donc j'imagine que les auditeurs sont aussi sensibles à cette pause. Voilà, donc ça a été un plaisir d'échanger.
Eh bien, je te remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, écoutez RTF. Au revoir.
Beaucoup de mes amis sont venus des nuages, avec soleil et pluie comme simple bagage. Ils ont fait la saison des amitiés sincères, la plus belle saison des quatre de la terre. Ils ont cette douceur des plus beaux paysages, la fidélité des oiseaux de passage. Dans leur cœur est gravée une infinie tendresse, mais parfois dans leurs yeux se glisse la tristesse. Alors ils viennent se chauffer chez moi, et toi aussi tu viendras, tu pourras repartir au fin fond des nuages, et de nouveau sourire à bien d'autres visages, donner autour de toi un peu de ta tendresse, lorsqu'un autre voudra te cacher sa tristesse. Comme l'on ne sait pas ce que la vie nous donne, il se peut qu'à mon tour je ne sois plus personne. S'il me reste un ami qui vraiment me comprenne, j'oublierai à la fois mes larmes et mes peines. Alors, peut-être, je viendrai
de chansons. Bravo la mer, on n'a jamais trouvé un verre plus bleu, un bleu plus vert. Aucune symphonie n'est riche d'autant d'harmonie qu'un merveilleux tonnerre qui fait l'amour avec la pluie. Bravo le vent qui fait danser les plaies, les océans. Bravo pour le soleil et la colère du volcan. Bravo pour l'arc-en-ciel qui met de la joie dans le cœur d'un enfant.
Bravo, monsieur le monde.
Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries. Je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive la révolution, je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations, je crie vive la collaboration. Non, jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste. De retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon.
Allongé moi j'ai le souffle court. Toi tu sais, une belle journée, je vais me coucher. Une si belle journée qui s'achève tard, l'envie d'aimer, mais je vais me coucher. Mordre l'éternité à en pleine scène. Une belle journée, je vais me coucher.